France Inter.
Le journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, travailler différemment, 4 jours au boulot, 3 jours de liberté, l'essayer c'est l'adopter. À la métropole de Lyon, 9600 agents qui veulent généraliser le dispositif à la rentrée. On va l'entendre. Les groupes de niveau seront la règle et les classes entières l'exception. Gabriel Attal persiste et signe sa réforme du collège jusqu'à Matignon où l'éducation reste sa priorité. Comment contrer le Rassemblement National avant les Européens? Une question cruciale pour la majorité, mais 3 stratégies s'affrontent. On verra ça avec Maxence Lambrecq. On verra aussi et on entendra le patron de TikTok qui s'adresse à ses abonnés américains. Faites-vous entendre, dit-il après un vote du Congrès qui menace d'interdire le réseau. Et puis pas de plan B pour la Seine et les épreuves des Jeux Olympiques. Si la qualité de l'eau n'est pas au rendez-vous, elles seront juste décalées.
Et à 8h20, on l'attend, ce grand entretien de la matinale. Bonjour Léa Salamé.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Notre invitée tout à l'heure.
Et oui, on l'attend, elle signe son premier film, En famille, un documentaire où elle revisite son histoire, l'inceste que lui a fait subir son père en allant confronter sa mère, sa belle-mère, sa fille, son ex-mari, bref, toute sa famille, un film coup de poing qui nous a absolument bouleversés, Nicolas, vous et moi. Christine Angot est notre invitée à 8h20.
Et vos questions, 01 45 24 7000.
France Inter.
Travailler 4 jours au lieu de 5. Est-ce que ça marche? Les expérimentations lancées ces derniers mois dans la fonction publique n'ont pas toujours trouvé preneur chez les agents, mais à la métropole de Lyon, c'est un plébiscite. C'est la plus grosse collectivité de France à tester la formule depuis le 1er septembre. 35 heures en 4 jours, 300 volontaires. Et vu les bons retours, la métropole va proposer de généraliser cette nouvelle semaine de travail à la rentrée. Christophe Vincent.
Réticent au départ, les cadres constituent les 2/3 des volontaires qui plébiscitent la formule et souhaitent qu'on la pérennise. Hélène Aublanc est cadre à la DRH, Félix Wilmet est ingénieur.
C'est vraiment très agréable, pouvoir faire du sport, pouvoir partir, mieux gérer la famille. Mon conjoint est en début de retraite, donc on sait que tous les 15 jours, on aura 3 jours ensemble.
C'est totalement gérable, j'ai l'impression, pour mon manager et mes collègues avec qui je travaille dans le cadre de mes projets. Il n'y a pas eu d'impact sur la qualité du travail rendu, en tout cas on ne l'a pas dit. Il y a vraiment quasiment que des avantages à cette semaine de 4 jours.
Vice-présidente de la métropole aux ressources humaines, Zemorda Khelifi est convaincue par l'expérimentation.
Il y a un impact sur l'ambiance au travail, la réduction du stress, la réduction des burn-out. Le burn-out n'est pas reconnu par la loi. Il y a un aspect plus largement d'amélioration des conditions de travail et des conditions de santé physique et mentale de nos agents.
Si les élus et les syndicats valident l'expérience, la métropole élargira son dispositif en septembre. La ville de Lyon pourrait à son tour instaurer la semaine de 4 jours à la fin du mandat. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
Voilà, 35 heures en 4 jours. Gabriel Attal a demandé à tous ses ministres de tester la formule dans leurs administrations il y a un mois lors de son discours de politique générale. Mais ce qu'on retiendra ce matin, c'est surtout l'attachement du Premier ministre à l'éducation et à sa réforme du collège. Lancée avant d'arriver à Matignon, il avait dit qu'il emporterait le sujet dans ses bagages. Il le confirme dans une interview donnée à l'agence France Presse. Bonjour Sonia Princey.
Bonjour.
Gabriel Attal tient au groupe de niveau dès l'an prochain en 6e, 5e pour l'enseignement des maths et du français.
Oui, mais vous savez bien que chaque règle a son exception. Alors certes, Gabriel Attal affirme qu'il faut que les élèves soient répartis en 3 groupes selon leur niveau de difficulté pendant les 3/4 de l'année scolaire, mais il concède qu'ils seront en classe entière le quart restant et notamment en début d'année scolaire, ce qu'il n'avait jusque-là jamais dit. Il reprend finalement ce qu'avait annoncé la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, la semaine dernière. Plus de souplesse avec possibilité de faire cours en classe entière. En revanche, Gabriel Attal continue à parler de groupe de niveau, contrairement à sa ministre, même si l'expression a cristallisé la colère des enseignants ces derniers mois. C'est plus clair pour les Français et qu'importe le nom, pourvu qu'il y ait la mesure, selon le Premier ministre, qui se défend d'avoir des divergences avec Nicole Belloubet.
Dans la même interview, Gabriel Attal s'inquiète de la laïcité, plus menacée que jamais à l'école, dit-il. Alors pour aider les professeurs, il veut des cellules d'appui pédagogique. De quoi s'agit-il, Sonia ?
Eh bien, dès qu'un professeur appréhendra une séquence d'enseignement ou qu'il se heurte à des contestations, il pourra être accompagné. C'est ce que font déjà les équipes académiques Valeurs de la République, mais la différence, c'est qu'il pourra être accompagné physiquement dans sa classe. Un autre enseignant formé sur les questions de laïcité ou un membre du personnel pourra être présent au moment du cours pour que le professeur ne soit plus seul face à ses élèves. Accepter qu'un enseignant ait peur d'enseigner, c'est une défaite pour la République, dit Gabriel Attal, qui veut aussi renforcer la sécurité des établissements. 150 établissements sont particulièrement préoccupés. préoccupant selon lui. Enfin, concernant les élèves radicalisés, plusieurs pistes sont à l'étude pour les sortir de leurs établissements. Il promet une solution d'ici la fin de l'année scolaire.
Sonia Princesse, spécialiste éducation de France Inter. La direction de Sciences Po saisit la justice pour des faits à caractère antisémite. Lors d'une mobilisation pro-palestinienne mardi à Paris, une étudiante juive a été empêchée d'assister à une conférence dans l'établissement en raison, dit-elle, de sa confession. Ce que les organisateurs démentent, récusant le mobile antisémite. L'affaire est montée jusqu'au sommet de l'État, provoquant l'indignation d'Emmanuel Macron en Conseil des ministres.
Il est 8h07, 4 étudiants sur 10 présentent des symptômes de dépression, 1 sur 5 a des idées suicidaires.
Résultat alarmant d'une étude de l'université de Bordeaux, révélée en exclusivité sur France Inter ce matin en partenariat avec Marianne. La santé mentale des jeunes s'est beaucoup dégradée depuis le Covid. Ce sera le sujet du téléphone sonne de Fabienne Sintès ce soir. Voilà qui nous amène à la question suivante. Doit-on encore verser une pension alimentaire à un enfant devenu majeur? La réponse est oui, jusqu'à ce qu'il puisse s'assumer financièrement, mais dans les faits, à partir de 18 ans. Cette pension que le jeune adulte peut alors toucher directement n'est plus toujours assurée, sans que celui-ci n'ait de moyens de pression. Ce à quoi veut s'attaquer une proposition de loi examinée aujourd'hui à l'Assemblée, Alice Cachaner. L'idée serait que la CAF serve d'intermédiaire.
Vincent est un étudiant de 24 ans. La pension alimentaire, il en a besoin pour boucler son budget.
Je paye tout seul, donc je m'en pose effectivement énormément sur les pensions alimentaires. Donc si j'avais pas la pension alimentaire, je mangerais pas.
Mais voilà, les relations avec son père sont tendues. Le versement de cette pension est aléatoire et irrégulier.
C'est inquiétant et on se dit combien de temps je vais réussir à stabiliser, on va dire, les dépenses et ne pas être complètement dans le rouge. Je me prive quand même de pas mal de choses. Je pense qu'avoir un intermédiaire dans les situations comme la mienne, ce serait top.
Depuis quelques années, la caisse d'allocation familiale sert d'intermédiaire pour assurer le versement des pensions alimentaires, mais uniquement entre ex-conjoints. Un dispositif efficace. On est passé de 35% d'impayés en 2016 à 20% en 2023. La proposition de loi vise donc à étendre ce mécanisme aux jeunes majeurs pour mieux les protéger et éviter les tensions, explique Vincent Thiebaud, député Horizon.
Certains parents, notamment le parent qui paye la pension alimentaire, dit bon, maintenant ça va, t'as 18 ans, va travailler, je ne verse plus la pension alimentaire. C'est vrai qu'un enfant majeur, instinctivement, c'est pas lui qui va forcément entamer des marches de recouvrement vis-à-vis du parent qui doit lui verser la pension alimentaire. On sait que c'est difficile.
Le code civil stipule que les parents ont l'obligation de nourrir et entretenir leur enfant jusqu'à son autonomie financière.
Alice Cachaner est menue chargée à l'Assemblée aujourd'hui. Les députés vont se pencher sur l'ultra fast fashion et l'idée d'un malus sur ces vêtements venus d'Asie qui inondent le marché français. Et puis sur le cumul des mandats pour assouplir la loi qui l'interdit depuis 2014.
Il est 8h09. Pourquoi la France défend-elle l'Ukraine et pourquoi une telle fermeté face à la Russie?
Emmanuel Macron va faire de la pédagogie ce soir, invité des JT de TF1 et de France 2 pour justifier sa position qui divise la classe politique lorsqu'il évoque un possible envoi de troupes occidentales en Ukraine. Ce sera aussi une façon d'entrer dans la campagne des Européennes. Maxence Lambrecq, alors qu'en coulisses, dans la majorité, il y a débat sur la meilleure façon de contrer le Rassemblement national en tête des sondages.
Soyons lucides, on n'a jamais su s'y prendre. Ce député de la majorité n'essaie même pas d'échafauder une stratégie. Il regarde les balles passées, parfois au sein même de l'Élysée, avec 3 stands de tir. Le premier utilise les cartouches morales. Héritiers de Vichy, alliés de Poutine, ils ont tout donné lors du premier meeting samedi dernier. Fallait le faire une fois, maintenant changeons de disque. L'ancien ministre, qui appartient à la deuxième équipe, avec les cartouches techniques. Listons tout ce qu'ils ont rejeté à Strasbourg. Montrons la dinguerie de leurs propositions. Dessinons la France sous Le Pen. Alors c'est beau sur le papier, mais ça n'a jamais fait reculer un électeur RN ni mobiliser un abstentionniste, tacle une figure de la majorité qui, vous l'avez deviné, appartient à la troisième équipe, garantie sans cartouche RN. Plus on en parle, plus on les installe. Ne cite jamais le nom de ton adversaire, répétait Chirac. Dire qu'il n'y a que 2 bulletins de vote, c'est expliquer que Bardella est le réceptacle de toutes les colères de toutes les oppositions. Emmanuel Macron a hésité à venir à Lille pour lancer la campagne. Cela aurait peut-être tranché ce débat qui n'aide pas à installer une dynamique.
Voilà, alors débat en partie focalisé sur l'Ukraine et la Russie, dont les mercenaires ont parfois remplacé les soldats français dans les pays d'Afrique de l'Ouest. C'était la milice Wagner, dissoute après la mort de son fondateur Evgeny Prigogine. Une nouvelle structure paramilitaire a donc vu le jour, nommée Africa Corps. Tiens, c'était aussi le nom de l'armée de Rommel en Afrique sous le Troisième Reich. Ces hommes, Valérie Crova, interviennent déjà dans plusieurs pays du Sahel.
De qu'Africa Corps en connaît, la chaîne Telegram où des photos de soldats russes débarquant en Burkina Faso ont été publiées fin janvier. À la différence de Wagner, la nouvelle organisation est directement placée sous la coupe du ministère russe de la Défense. Le journaliste et spécialiste de l'Afrique, Vincent Hugeux.
Prigogine, de par les réseaux qu'il a tissés, notamment en Afrique, il avait acquis une certaine marge d'autonomie. Et c'est ce que le Kremlin veut à tout prix éliminer comme scénario.
C'est d'ailleurs le vice-ministre russe de la Défense, Evkourov, qui supervise le nouveau bras armé du Kremlin. Si ses effectifs ne sont pas connus dans le détail, Africa Corps mène des campagnes de recrutement via des spots publicitaires pour attirer de nouvelles recrues. Pour le reste,
il y a à la fois des anciens de Wagner qui avaient déjà une position hiérarchique, mais qui ont en quelque sorte fait acte d'allégeance. Et puis d'autres éléments qui viennent directement de l'armée, des officiers qui sont jugés eux aussi d'une loyauté des reins.
L'installation récente d'une base militaire sous le label Africa Corps, à seulement 20 km de Ouagadougou, atteste de la volonté de Moscou de faire du Burkina la pièce maîtresse de son dispositif africain.
Valérie Krova, il ne sera pas Premier ministre des Pays-Bas. 4 mois après sa victoire aux législatives, le dirigeant d'extrême droite Geert Wilders n'a pas réussi à former une coalition sur son nom. Il renonce donc à prendre les rênes. Et les négociations continuent entre les partis de la droite néerlandaise. Quand le patron chinois de TikTok se sert de son réseau pour le défendre aux États-Unis, TikTok menacé par un vote du Congrès hier qui prévoit de l'interdire si la plateforme ne coupe pas les ponts avec sa maison mère en Chine. Mobilisez-vous a donc lancé Shaozi Shu aux 170 millions de TikTokers américains dans une vidéo et un style typique du réseau.
Hi everyone, it's Shaozi here.
Bonjour à tous, c'est Sho ici. Alors je voulais vous dire que si elle est adoptée, cette loi entraînera l'interdiction de TikTok aux États-Unis. Même les auteurs du projet de loi l'admettent. Nous savons à quel point TikTok est important pour vous tous. Il a donné à nos 170 millions d'utilisateurs une plateforme pour s'exprimer librement et a permis à plus de 7 millions d'entreprises aux États-Unis de se développer. Alors nous allons continuer à faire tout ce qui est en notre pouvoir, y compris à exercer nos droits légaux pour protéger cette formidable plateforme que nous avons construite avec vous. Nous sommes convaincus que nous pouvons surmonter cette épreuve ensemble et je vous encourage à continuer à partager vos histoires, à les partager avec vos amis, à les partager avec votre famille et à les partager avec nos sénateurs. Protégez vos droits constitutionnels, faites entendre votre voix. Je vous aime tous.
Voilà, bisous, le PDG de TikTok sur son réseau, ce sera aussi le sujet de la chronique de Pierre Aski dans quelques minutes. En France, un jeune homme de 19 ans est mort hier soir, percuté par une voiture de police pendant une course-poursuite à Aubervilliers, au nord de Paris. Il avait refusé d'obtempérer, assurent les policiers. La justice a ouvert une enquête et saisi l'IGPN. Après Vincent Bolloré hier, place à Cyril Hanouna, l'animateur de C8, auditionné cet après-midi par la commission d'enquête parlementaire sur l'attribution des fréquences télé. Son émission polémique, moult fois sanctionnée par l'ARCOM. La Seine sera-t-elle au rendez-vous des Jeux ? Ou plutôt la qualité de l'eau du fleuve sera-t-elle compatible avec les épreuves de natation marathon et de triathlon ? L'été dernier, la répétition générale avait dû être annulée. Cette semaine, la championne olympique brésilienne de nage en eau libre a demandé un plan B au cas où. C'est non, a répondu la préfecture d'Île-de-France qui pilote le dossier. Pas de plan B. Emma Sarango met des contrôles renforcés.
La Seine ou rien, il n'y a toujours pas de plan B géographique. En revanche, comme c'était prévu dans la candidature, il y a bien un plan B temporel, précise le préfet d'Île-de-France, Marc Guillaume.
Les épreuves pourraient être décalées d'un ou deux jours, alors ça dépend, le marathon, le triathlon, etc.
Bien sûr, ce serait un camouflet quand on sait qu'1,4 milliard d'euros ont été investis pour des infrastructures en tout genre. Mais il y a toujours l'aléa météo, une très grosse pluie, comme il en arrive 4 fois par an seulement, sans compter le risque d'un incident comme l'été dernier, un clapet d'égout resté ouvert. C'est la raison pour laquelle les contrôles vont être renforcés à partir du 1er juillet.
Il y aura une multiplication des points d'analyse de l'eau l'été prochain, 35 points pour retrouver plus facilement, s'il y a un incident, l'origine de celui-ci.
Alors pour le triathlète Léo Bergère, en quête d'un ticket olympique, il n'y a plus de raison de s'inquiéter.
En triathlon, on nage souvent dans des grandes villes. Chaque fois, cette problématique de qualité de l'eau, et donc la Fédération internationale est très alerte sur le sujet. Et c'est pour ça que j'ai une entière confiance sur la tenue du triathlon aux Jeux Olympiques.
Avec toujours le risque de cyberattaques sur les installations ou de pollution volontaire dans la Seine.
Et Massarango, le PSG en demi-finale de la Coupe de France. Les Parisiens ont battu Nice hier soir 3 buts à 1. Ils retrouveront Rennes sur l'avant-dernière marche le 3 avril. L'autre demi opposera Lyon à Valenciennes. Enfin, sa voix tendre nous enveloppe depuis plus de 20 ans et Come Away With Me, Norah Jones est de retour avec un 9e album. Vision, c'est son nom, intime et joyeux, nous dit Mathieu Culeron qui a rencontré l'artiste américaine à Paris cette semaine.
C'est en enregistrant son album de Noël avec son batteur Leon Mitchells que Norah Jones découvre ses talents de producteur. Ce nouveau disque est donc né de sessions très libres avec une envie de simplicité. Norah Jones.
Il jouait de la batterie et je jouais du piano. Et pour nous deux, c'était la première fois qu'on rejouait depuis la pandémie. Donc pour nous, c'était l'euphorie totale. On s'est tellement amusés. Tout ce qu'on a enregistré au début, on l'a finalement utilisé. On pensait que c'était de simples démos et finalement, ce sont les versions finales.
Certains titres parlent d'eux-mêmes, c'est le cas de cette chanson « I Just Wanna Dance », conséquence directe d'une improvisation entre Norah Jones et son producteur.
C'est drôle parce que quand on enregistrait cette chanson, à la fin il a dit « Il ne nous reste plus qu'à ajouter de nouvelles paroles ». Et j'ai dit « Non, je pense pas, il n'y a rien à ajouter à ces mots, je ne veux pas en parler et je veux juste danser ». Il a beaucoup ri quand je lui ai dit ça.
Disque dépouillé, lofi et sincère, Visions est l'album de Norah Jones qu'on attendait, loin des artifices et avec une légèreté solaire et inspirée.
Norah Jones, invitée de Marion Lourd dans le 6-9 de France Inter samedi. Nicolas, vous serez à l'écoute.
Oui, évidemment. Merci Marie. Pardon. Je sais pas d'où c'est venu celui-là.
C'est pas comme si on se connaissait pas quand même, Nicolas.
Non. Hein, ça remonte à un certain temps, ma chère Florence Paracuelos. 9h20, Léa Salamé reçoit l'acteur et réalisateur Guillaume Canet pour le nouveau film de Stéphane Brisé, hors saison, en salle le 20 mars.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Et attention au brouillard sur le nord.
Oui, Nicolas, l'air chaud du sud qui remonte grâce à l'anticyclone engendre pas mal de bandes de brouillard sur la moitié nord avec parfois des visibilités réduites encore sur le Grand Est mais aussi du Dijonais au Val-de-Saône au Lyonnais. Après la dissipation de ces brouillards, la matinée sera ensoleillée, excepté sur la pointe bretonne qui s'ennuage avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation donnant déjà quelques pluies accompagnées d'un bon vent. En revanche, au sud, le soleil est déjà très généreux, excepté sur les côtes du golfe du Lion. On a des entrées maritimes encouragées par un bon vent marin qui recouvre le ciel matinal du Languedoc-Roussillon et de la Côte d'Azur. Mais avec ce ciel plus dégagé, il fait plus froid. Seulement 0 au Puy-Loup, 2 à Romorantin, à Vichy ou Figaro. Vous avez 6 à Paris et 5 à Montpellier.
Et un après-midi printanier.
Et après la dissipation quand même des brouillards, le soleil sera plus généreux, mais quand même voilé. Puis la perturbation va avancer de la Bretagne au Cotentin au Pays Nantais, sous le vent qui traversera le pays demain. Avec des averses et des orages. Donc profitez bien de la hausse du mercure amorcée hier qui va se poursuivre aujourd'hui. Alors qu'hier, on a eu 22 déjà à Le Vigan dans le Gard. Météo France prévoit jusqu'à 23-24 de Saint-Jean-de-Luz à Pau. Au plus bas, il fera 13 à Quimper, 14 à La Guiole, pas plus de 16 à Montpellier. Comptez 17 à Rouen et à Lille, Ajaccio et Forbach. 18 à Paris, 20 à Limoges, à Bourges ou Grenoble. En se rappelant pour nos abris bretons où il va pleuvoir aujourd'hui que pluie de Sainte-Mao n'est jamais de trop.
Et la Sainte-Mao de l'équipe du 7-10 a dû le recevoir 5 sur 5. Marie-Pierre, un mot, vous serez ce week-end à Villefranche-sur-Saône pour le festival, j'adore son nom, La Vague des Livres en Beaujolais. Et dimanche, vous jouez la maîtresse d'école.
Vous ferez la dictée.
C'est à 10h30 à la mairie. J'adorerais pouvoir y être, mais ça ne va pas être possible,
allez,
malheureusement.
Au petit Beaujolais.
Non, une bonne dictée. Il est 8h20.